VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guerrier en direct de Washington, jeudi 17 mai 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30, temps universel. Au sommaire ce soir, les Burundais ont voté ce jeudi lors d'un référendum sur la Constitution. Épidémie d'Ebola en RDC, premier cas en zone urbaine à Bandaka, la capitale provinciale de la Chouapa. La Ligue arabe appelle à une enquête internationale sur les crimes des forces israéliennes dans la bande de Gaza. Et en magazine, nous reviendrons sur le 21e anniversaire aujourd'hui de la chute de Mobutu en RDC. Ne ratez pas l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. Au Burundi, quelques 4,8 millions d'électeurs ont voté ce jeudi lors d'un référendum sur une révision constitutionnelle. Un texte qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Dans la province de Ngozi, d'où est originaire le président Pierre Nkurunziza, a voté sur sa colline natale de Bouyé en compagnie de son épouse. La correspondante du service Kirundi Kinyarwanda de VOA Afrique, Fidélité Ichassé, y était. Yakuba Ouedraogo, la jointe.
Les bureaux de vote ont ouvert à partir de 6 heures du matin. L'engouement, oui, il y en avait parce que les gens ont commencé à s'amasser autour de ces bureaux, pour certains à partir de 4 heures du matin, 5 heures. Les gens étaient vraiment contents. Pour certaines, c'était comme si c'est la libération du Burundi. Pour d'autres, c'était comme si maintenant, ils vont s'approprier de la Constitution. Puis, il y en avait celles qui disaient que maintenant, c'est fini avec les accords d'Arusha. Là où le président Nkurunziza a voté, donc c'est en pleine campagne. Là où j'étais, c'est-à-dire dans la commune de Mwumba et dans la ville d'Ngozi, apparemment il n'y avait pas des observateurs mixtes. On y rencontrait beaucoup plus des observateurs issus du CNDD. Maintenant, c'est fini, c'est le décompte qui commence.
Fidélité Ichatse, correspondante du service Kirundi Kinyarwanda de VOA Afrique. Agathon Rwasa, à la tête de la coalition d'indépendants Amizero I à Burundi, Espoir des Burundais, a aussi voté dans cette même province de Ngozi, dans le nord du Burundi. Sur place, Jean Bosco Darurinze, également correspondant du service Kirundi Kinyarwanda de VOA Afrique.
Agathon Rwasa a signalé que dans différentes localités du pays, il y a eu des incidents de la plupart de ses membres, parmi lesquels les mandataires qui devraient observer le déroulement de l'élection. Beaucoup d'entre eux ont été malmenés selon lui. Par ailleurs, il a indiqué qu'un membre de sa coalition, Amizero Barundi, à commune Rumonge, a été tué par des gens du camp du parti au pouvoir. Et il a indiqué que l'élection pourra ne pas donner des résultats qui sont fiables. Si je fais un constat en ce moment, je peux dire qu'il n'y a pas eu d'incident. Je peux dire que pour le moment, tout s'est bien passé du point de vue de la sécurité. Mais bien sûr, à part ces incidents qui ont été signalés dans d'autres localités du pays par le président de la coalition Amizero Barundi.
Centrafrique, un casque bleu mauritanien a été tué et 8 blessés ce matin lors d'une attaque d'un convoi de l'ONU par des milices anti-Balaka au sud de la ville d'Alindao, dans le sud-est du pays. C'est ce qu'annonce l'armée mauritanienne en affirmant que 40 assaillants avaient été tués. Les anti-Balaka sont des milices autoproclamées d'autodéfense, peu organisées et implantées localement. C'est le troisième casque bleu de la mission de l'ONU dans le pays, tué en Centrafrique. Depuis le début de l'année. Attentat dans le nord-est du Nigeria. Au moins 4 personnes ont été tuées aujourd'hui dans une attaque suicide contre une mosquée dans un camp déplacé de Dikwa, dans l'état de Borno. Un kamikaze qui s'est fait passer pour un fidèle s'est fait exploser. Cet attentat survient 2 jours après une autre attaque suicide qui a tué 5 miliciens à Kondoura, ville située à quelques dizaines de kilomètres de Dikwa. En Guinée, le Premier ministre Mamadi Youla a présenté sa démission et celle de son gouvernement. Cette mesure intervient 2 mois après la promesse du président Alpha Condé de procéder à un grand remaniement ministériel après une série de grèves et de manifestations, dont certaines meurtrières. L'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie se sont mis d'accord pour créer un comité scientifique consacré au méga-barrage que construit l'Éthiopie sur le Nil Bleu. Cette annonce intervient après une réunion des ministres des Affaires étrangères et de l'Irrigation, ainsi que des responsables du renseignement des trois pays, mardi à Addis Abeba. Il faut dire que l'Égypte craint que la construction du barrage de la Renaissance sur le Nil Bleu, entamé en 2012 et d'un coût de 4 milliards de dollars, n'entraîne une réduction du débit du fleuve dont elle dépend à 90% pour son approvisionnement en eau. Nous avons réussi à trouver un certain nombre d'approches gagnant-gagnant, ont assuré les autorités éthiopiennes suite à cette réunion. De précédentes sessions de pourparlers s'étaient achevées sur un échec. Zambie, la justice a ordonné la mise en détention du chanteur Chama Fumba, arrêté mercredi à son retour dans son pays. Connu sous le nom de Pilato, il avait fui la Zambie après avoir reçu des menaces de partisans du Front Patriotique, le parti au pouvoir, à propos de sa chanson Kosue Mumpoto, un rat dans le plat. Beaucoup de gens ont vu dans cette chanson des accusations de corruption contre le président Edgar Lungu et ses ministres. En République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé confirme un cas d'Ebola en zone urbaine, à Mbandaka, la capitale provinciale de la Tchouapa. Et c'est la première fois depuis le début de l'épidémie déclarée le 8 mai. L'organisation évoque une situation très préoccupante. Des détails avec Anastasie Tudiech.
Selon une source médicale, la personne infectée qui a contaminé deux membres de sa famille est venue il y a une dizaine de jours à Mbandaka depuis Bikoro, zone rurale difficile d'accès où la fièvre hémorragique Ebola a été détectée en début du mois. Carrefour de plusieurs cours d'eau, Mbandaka approvisionne Kinshasa en poissons et gibier par le fleuve. Le trafic par bateau et pirogue est intense entre les deux villes. Selon un correspondant de l'AFP sur place, aucune disposition particulière n'est prise par les autorités sur le terrain pour contrôler les déplacements entre Mbandaka et Bikoro d'une part et entre Mbandaka et Kinshasa d'autre part. Vendredi dernier, le directeur du programme de gestion des situations d'urgence de l'OMS, Peter Salama, avait averti que si une ville de la taille de Mbandaka était infectée par Ebola, une épidémie urbaine majeure serait à prévoir.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le secrétaire général de la Ligue arabe appelle à une enquête internationale sur les crimes des forces israéliennes dans la bande de Gaza. Les ministres arabes des Affaires étrangères se réunissent au Caire dans une réunion extraordinaire de l'organisation panarabe. Eric Manirakiza.
Organisée à la demande de l'Arabie Saoudite, la réunion au niveau des ministères des Affaires étrangères porte sur l'agression israélienne contre le peuple palestinien et le transfert de l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Le secrétaire général de la Ligue arabe a condamné le recours à la force inouïe contre des civils palestiniens sans armes. Il a estimé que le transfert de l'ambassade des États-Unis dans la ville occupée de Jérusalem est une violation flagrante de la loi et la légitimité internationale. Les forces israéliennes ont tué lundi près de 60 manifestants palestiniens et blessé 2500 dans de protestations et de heurts le long de la barrière de sécurité qui sépare Israël de la bande de Gaza. C'était le jour même de l'inauguration à Jérusalem de l'ambassade des États-Unis. Israël a justifié l'usage de la force pour défendre la barrière de sécurité et d'empêcher l'infiltration de Palestiniens. La Turquie organise vendredi à Istanbul un sommet de l'Organisation de la coopération islamique forte de 57 pays membres. L'intention est d'adresser un message très fort au monde en solidarité avec les Palestiniens.
L'agence de l'ONU qui vient en aide aux réfugiés palestiniens, l'UNRWA, pose problème d'après le chef de la diplomatie suisse. Ignacio Cassis estime qu'elle alimente le conflit au Proche-Orient en maintenant en vie le rêve irréaliste d'un retour pour tous. Les réfugiés rêvent de retourner en Palestine. Il n'y a plus 700 000 réfugiés palestiniens dans le monde, mais 5 millions. Il est irréaliste d'imaginer un retour pour tous. C'est ce qu'il a déclaré. Mais l'UNRWA maintient cet espoir, estime le diplomate suisse qui appelle l'Assemblée générale de l'ONU à se saisir de cette question. Les dirigeants européens se sont retrouvés à Sofia pour confirmer la perspective européenne promise aux pays des Balkans où la Russie tente d'étendre son influence. Mais ils ont aussi évoqué la question de leur rapport avec les États-Unis. Bagassi Koura.
Après un dîner consacré hier au front uni que l'UE veut opposer à ce qu'elle appelle les caprices de Donald Trump, les chefs d'État et de gouvernement européens se sont réunis avec leurs homologues d'Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Serbie, du Monténégro, de Macédoine et du Kosovo. À l'issue du dîner de mercredi, les 28 se sont accordés sur une approche unie pour sauvegarder l'accord nucléaire iranien tant que l'Iran le respecte, après la décision du président américain Donald Trump d'en retirer les États-Unis, a indiqué une source européenne. La Commission européenne va lancer vendredi un processus qui pourrait lui permettre de bloquer les effets extraterritoriaux des sanctions américaines pour les entreprises européennes voulant investir en Iran. Les Européens s'inquiètent aussi des tensions qui subsistent dans les Balkans, comme celles entre la Serbie et son ancienne province du Kosovo. La Russie y a accru sa présence médiatique ces dernières années, mais son influence ne s'est pas encore concrétisée massivement sur le plan politique ou économique.
Les sanctions internationales à l'encontre de la Syrie exacerbent la crise humanitaire. Telles sont les conclusions d'un expert de l'ONU en déplacement à Damas. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco avec Eric Maniarakiza.
La lutte contre le changement climatique pourrait causer la perte de 350 000 emplois en Afrique d'ici 2030. Selon l'Organisation internationale du travail, la généralisation de la transition verte pourrait créer 24 millions de nouveaux emplois, mais en ferait disparaître 6 millions. Le Moyen-Orient et l'Afrique seraient les plus touchés. L'extraction pétrolière et le raffinage afficheraient des pertes supérieures à 1 million d'emplois. La transition vers une économie verte concerne l'économie circulaire, les activités de recyclage et de tri, la réparation, la location et la réutilisation d'objets. L'Agence française de développement AFD veut investir au Bénin 135,5 millions de dollars pour cette année. Ce financement vise à soutenir les projets de développement du pays. Plus de 19 millions de dollars ont déjà été décaissés depuis le début de l'année. Depuis 2014, les engagements de l'AFD en faveur du Bénin se sont élevés en moyenne à 77 millions de dollars annuellement.
On enchaîne sur les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Mondial 2018, les 23 du Sénégal sont connus.
Et oui, alors qu'il était censé dévoiler sa présélection de 35 joueurs, le sélectionneur du Sénégal a directement annoncé sa liste finale de 23 noms. À l'instar de Koulibaly, Kouyaté, Gana Gueye, Ismaël Sarr, Baldé Keïta, Moussa Sow et la star Sadio Mané, les têtes d'affiche sont là avec aussi Karam Bodj de retour de blessure. Les binationaux Sabali et Niang arrivés pour la fin des qualifications feront eux aussi le voyage en Russie. L'aventure s'arrête ici par contre pour Papi Djilobodji, Hassan Dioussé, Sankare ou encore Santingom qui n'ont pas été retenus. Pour rappel, les Lions affronteront la Pologne, le Japon et la Colombie dans le groupe H.
Hervé Renard a lui aussi dévoilé directement sa liste des 23.
Le sélectionneur du Maroc a annoncé une liste de 23 lions de l'Atlas retenus pour le Mondial 2018, plus 3 réservistes, avec Benassia, Dirar, Boussoufa, El Hamadi, Belanda, Harit, Ziyech ou encore Boutaïb. Les têtes d'affiche sont aussi là, tout comme la révélation du Chan 2018, Ayoub El Kabi. Pas de trace en revanche pour Sofiane Boufal, principal absent qui paie son manque de jeu avec Southampton. En Russie, les Marocains affronteront l'Iran, le Portugal et l'Espagne dans le groupe B.
Buffon quitte la Juventus.
Tout à fait, l'historique gardien de la Juventus a annoncé qu'il va quitter le club turinois après 17 saisons. À l'issue d'un dernier match samedi face au Hellas Vérone, Gianluigi Buffon a également déclaré qu'il ne rejouerait plus en équipe d'Italie, alors que sa présence était évoquée lors d'un match amical face aux Pays-Bas le 4 juin à Turin. Buffon a par ailleurs déclaré qu'il se donnait encore quelques jours pour décider de son avenir, qui pourrait être sur le terrain ou en dehors.
Et enfin, les crampons du pharaon Salah entrent au musée.
Les crampons de l'attaquant égyptien de Liverpool ont fait leur entrée au célèbre British Museum de Londres. Aux côtés des antiquités égyptiennes, l'équipementier du meilleur buteur de la Premier League a offert une paire de crampons à la vénérable institution pour célébrer le nouveau record de 32 réalisations pour une saison à 38 journées. Les crampons de Mohamed Salah seront exposés la semaine prochaine avant la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid samedi 26 mai à Kiev.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Les Burundais ont afflué très tôt dans les 11 076 bureaux de vote. Un fort déploiement sécuritaire avait été prévu et aucun incident n'a été recensé. Le comptage des bulletins a commencé dès la fermeture des bureaux de vote. Au menu, un référendum constitutionnel pour remplacer la constitution issue des accords de paix et de réconciliation d'Arusha, signé en 2000 par tous les belligérants. L'opposition juge le référendum inopportun, tandis que les partis proches du gouvernement indiquent que le moment est arrivé où les Burundais vont choisir leur propre constitution, comme ils l'avaient souhaité. De Bujumbura, une correspondance de Christophe Kourounziza.
Nombreux étaient ces femmes et hommes qui, au sorti des urnes, clamaient haut et fort qu'ils ont le droit de vote, mais qui ne savent pas ce qui est écrit dans cette nouvelle constitution. Ils l'ont dit à VOA Afrique.
Je viens de voter pour le non parce que, d'après ce que j'ai appris, c'est une constitution qui va consacrer tous les pouvoirs à un seul homme. Tous les pouvoirs.
J'ai franchement voté pour le non. Cette constitution en soi qui vient d'être révisée, rien ne nous a été dévoilé comme composant de cette nouvelle constitution.
Mais écoutez, sur le plan sécurité, oui, ça s'est bien déroulé parce que les policiers y ont été déployés en masse, qu'il n'y a pas eu d'incident vraiment à signaler. J'ai voté oui ou non, c'est entre les deux, vous savez, et puis ça restait secret pour des raisons de sécurité. Quelque part, j'ai été obligé d'aller voter vu la situation sociopolitique que nous traversons. Donc je devais aller pour ma propre sécurité, ma protection.
D'autres étaient vraiment contents de voter oui pour la nouvelle constitution, mais n'ont pas voulu donner leur voix pour des raisons inconnues à VOA Afrique. Mais juste après ce vote référendaire, ceux ou celles qui se sont rendus aux urnes écoutaient la musique ensemble dans un bistrot du quartier Nyakabika. Le premier vice-président du Burundi, Gaston Sindimo, du Parti de l'Indépendance UPRONA, Union pour le Progrès National, est également parti voter pour le oui dans le quartier de Nyakabiga, un des quartiers du centre de Bujumbura. Il a déclaré que le gouvernement est prêt à concéder la victoire du non, car pour lui, tous les deux camps ont fait la campagne en toute liberté et quiétude. Mais de nombreux Burundais ont affirmé que connaissant les pratiques gouvernementales, les oui va l'emporter. Surtout qu'aucun observateur digne de foi ne s'est déplacé au Burundi. Le vice-président du parti Front pour la démocratie au Burundi, Léonce Ngendakumana, donne quelques arguments qui l'a poussé à dire à ses militants de voter non à ce référendum constitutionnel.
Le nouveau projet consacre l'exclusion. Beaucoup d'articles, il y a un autre article qui consacre l'impunité. Avant, il était prévu qu'un pouvoir, un parti politique, ou même un individu ou un groupe d'individus, qui commettrait les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, ou les crimes de génocide, allait être traduit devant les juridictions internationales parce que chez nous, on n'a pas cette compétence aujourd'hui. Le nouveau projet a rejeté cette proposition. Il a dit qu'aucun Burundais ne peut être extradé, quelle que soit la nature des crimes qu'il aura commis.
Le Burundi vit depuis le coup d'État manqué de mai 2015, replié sur lui-même. Et les efforts pour un dialogue inclusif restent toujours bloqués, le gouvernement ne voulant pas s'asseoir avec ceux qu'il qualifie de terroristes. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Les évêques camerounais tirent la sonnette d'alarme face à la détérioration de la situation sécuritaire dans les régions anglophones. Ils appellent à une médiation entre le gouvernement et les indépendantistes pour éviter, disent-ils, une guerre civile inutile. Selon les Nations Unies, plus de 160 000 personnes ont fui leur domicile à cause de la crise dans les régions anglophones. En réaction, Abdourahman Dia a joint Monseigneur Sosten Bayemi, responsable de la communication à la Conférence épiscopale nationale du Cameroun.
Ce qui attire notre attention, c'est l'aggravation de la situation dans les deux régions, aussi bien du nord-ouest que du sud-ouest, qui vivent déjà depuis 2016 une situation de violence. Mais on note une certaine radicalisation de toutes les parties et c'est ça qui inquiète davantage les évêques.
Que vous disent vos collègues dans les régions nord-est et sud-est du Cameroun? Est-ce que la situation vraiment est inquiétante au point d'attirer votre attention aujourd'hui?
Nos confrères qui sont dans la zone, qui nous décrivent chaque fois que nous nous rencontrons l'état réel de leur diocèse, certains d'entre eux nous disent qu'ils n'ont même plus la possibilité d'aller dans certaines paroisses. Je prends le cas de l'évêque de Manfé, pareillement l'évêque de Kumba, qui ont vécu des situations réellement critiques et dangereuses. Ils nous font aussi état des déplacés. Énormément de populations sont déplacées, craignant des violences qui peuvent venir de n'importe quelle partie. Il y a aussi le fait que leur propre vie est même quelquefois mise en danger. L'évêque de Manfé me rappelait qu'il était là moins d'une semaine. Rentrant chez lui, il a été stoppé par une bande armée de ceux qui réclament la sécession. Ils l'ont sorti de la voiture, etc. Et il a fallu l'intervention d'un commandant qui est venu 30 minutes après pour qu'il soit libéré.
Vous pensez qu'on pourrait s'acheminer vers cette situation de guerre civile au Cameroun?
Oui, oui. Si rien n'est fait, on peut arriver à une situation de non-retour. C'est possible. Nous n'en sommes pas encore là. C'est pourquoi nous estimons qu'une médiation s'impose pour que nous ne puissions pas avancer dans une situation de non-retour. Et les parties en place doivent dialoguer. C'est pourquoi les évêques estiment qu'une médiation s'impose maintenant pour qu'on amène aussi bien ceux qui réclament la sécession que l'État, qui est dans son droit de préserver l'intégrité du territoire, entrer dans un dialogue qui puisse arriver à faire en sorte que les parties en place, et pour le bien du peuple, puissent s'entendre et résoudre le problème. Le problème sera résolu par les Camerounais.
C'était Monseigneur Sosten Bayemi, évêque d'Obala, dans le centre du Cameroun.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Togo, la cinquième édition du Female Tech Camp s'achève à Lomé. Et ces quatre jours de formation destinés exclusivement aux jeunes filles dans les domaines technologiques a eu lieu sur le campus universitaire de la capitale. Le reportage de Kay Lawson, correspondante de VOA Afrique à Lomé.
La communauté des Nanatech au Togo vient d'accueillir 32 nouvelles adhérentes. Cette communauté est composée des alumni du Female Tech Camp qui est à sa cinquième édition cette année. Female Tech Camp est une rencontre destinée aux jeunes filles togolaises passionnées par la technologie. Nadeja Futu est la présidente du Female Tech Camp.
Nous avons remarqué que les filles ont une certaine appréhension. Elles avaient construit un mythe autour des TIC. C'est pourquoi déjà en 2013, nous avons nourri l'idée de les aider à démystifier les TIC et de les aider à acquérir des compétences. Depuis 2014, grâce au Tech Camp, on a pu voir l'émergence de community managers, des infographistes, des photographes, des spécialistes de la vidéo.
Akwa Awuja est de la promotion 2015 de Female Tech Camp.
J'ai eu à découvrir les béabas de ce que c'est que les réseaux sociaux surtout. On nous parle du branding, de e-réputation, etc. Ou des termes comme le social media management ou encore le journalisme web ont été évoqués. Et donc depuis lors, j'ai trouvé une aspiration pour le journalisme web. Du coup, je me suis lancée dans cela, mais sur les questions de développement socio-économique et culturel, d'où le site web et la web TV que j'ai aujourd'hui, Africa Quoi TV.
Pendant ces quatre jours, les participantes apprennent entre autres les métiers du web, le codage et le microblogging. une formation fort appréciée en croire ses participantes rencontrées par VOA Afrique.
Moi, j'ai voulu participer à ce camp parce que depuis toujours, tout ce qui est technologie m'intéresse. Nous avons pu parler de journalisme et aussi de blogging. Donc moi, personnellement, j'ai appris comment créer un blog et comment le gérer aussi.
J'ose dire que les nouvelles informations que j'ai reçues sont vraiment intéressantes. On a essayé de créer déjà notre blog, donc on nous a conseillé de savoir bien écrire. Concernant le codage, c'est un peu compliqué, c'est vrai, mais c'est une nouvelle information qui vient à moi aujourd'hui.
Pour soutenir la gente féminine dans les domaines technologiques, le gouvernement togolais ne leur dédie pas exclusivement des initiatives, explique à VOA Afrique la ministre togolaise de l'économie numérique, Sina Lawson.
Il ne s'agit pas de n'avoir que des initiatives spécifiques aux femmes. Il y a des initiatives comme celle du compte Eco qui va contribuer énormément à l'inclusion numérique des femmes. Au niveau de l'éducation, il y a le projet du Wi-Fi Campus, parce qu'en fait, accompagner, c'est donner des outils, c'est donner des moyens, notamment en matière de technologie qui concerne la connectivité. Il y a aussi des initiatives dans le domaine de l'agriculture.
Kailosson, Lomé pour VOA Afrique.
« 17 mai 1997, 17 mai 2018, cela fait 21 ans, jour pour jour, depuis que la FDL, mouvement rebelle, prenait le pouvoir en RDC, mettant ainsi fin aux 32 ans de règne du président Mobutu. » Que reste-t-il du combat mené alors par Laurent-Désiré Kabila, qui a dirigé le pays de 97 à 2001, avant d'être remplacé par son fils? Reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Le samedi 17 mai 1997, aux petites heures du matin, les troupes de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo entraient dans Kinshasa sous les acclamations de la population au champ de libération. Cet événement mettait fin à 32 ans du régime dictatorial du président Mobutu, remplacé quelques jours plus tard par le leader de l'AFDL, Laurent Désiré Kabila. Mais 21 ans après, que retenir de l'action de celui que les Congolais appelaient affectueusement Mzé Laurent Désiré Kabila? Le professeur Didier Moumengi, ministre de la Communication et Médias sous Kabila père, souligne surtout son amour pour le Congo.
Nous sommes redevenus République démocratique du Congo. Nous ne l'étions pas avant qu'il n'arrive au pouvoir. Par son action, nous avons le franc congolais comme monnaie. Et c'est un homme qui a porté très haut l'amour du Congo et l'attachement au bonheur du peuple congolais.
Au plan politique, l'AFDL n'est plus la première force politique qu'elle fut de 1997 à 2001. Le mouvement s'est affaibli avec la mort de son leader. Plusieurs de ses cadres et ministres d'alors ont rejoint l'opposition. Le cas du docteur Sonji, ancien ministre de la Santé, très critique à l'endroit du pouvoir actuel. D'autres, par contre, sont restés avec Kabila fils. Le cas de Théophile Bemba, gouverneur de la ville de Kinshasa et ministre sous Kabila père et fils.
Pendant ces 21 ans, le président Joseph Kabila a tout fait pour que la paix revienne, la démocratisation et le démarrage de la reconstruction. Il y a deux buts, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. La majorité présidentielle, pour avouer, on n'est plus tellement dans cette vision de Mzé Laurent Kabila.
17 mai, journée chômée et payée en République démocratique du Congo. Interrogé sur ce qu'il reste du combat de Mzé Laurent Désiré Kabila, les Kinois sont très divisés.
Le pays se retrouve actuellement dans un état beaucoup plus confus à cause d'ailleurs de l'entrée de l'AFDL qui nous a laissé des traces dans notre armée, des étrangers qui aujourd'hui on ne sait pas les identifier et aussi les mettre totalement dehors de notre pays.
Ben, c'était un bon combat, un combat qui nous a libérés de la dictature de M. Mobutu.
C'était un bon souvenir parce que c'était nos amis qui étaient venus se joindre à nous pour que nous combattions ensemble Mobutu. Comme eux étaient armés, nous ne l'étions pas. Nous étions parvenus tous à faire partie Mobutu. Mais jusqu'à présent, c'est nous-mêmes qui tâtonnons. Nous ne foutons rien.
On fait des séjours, excusez-moi, un jour férié. Mais qu'est-ce qu'on peut commémorer de ce jour? Pour moi, la vie politique actuelle de la République démocratique du Congo est dans le chaos et dans le néant.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition à la mise en onde de Georges Léon Arsagno, à la présentation Morgane Guériec. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 sur 24. Au revoir.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.